Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h,
on de la raconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'une femme que l'on croit morte et qui, de son coma, entend tout ce qui se passe autour d'elle. À un moment, il est même question de la débrancher. Et elle dit, sans qu'on l'entende, « Je suis vivante, je suis vivante ». Et cette femme, Angèle Liébi, eh ben c'est vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez raconté votre incroyable histoire dans un livre qui s'appelle « Une larme m'a sauvée » aux éditions Les Arènes. Et on comprendra le titre au fil de mon histoire. Je compte sur vous, évidemment, tout à l'heure pour débriefer cette histoire que voici. Je l'ai écrite avec Simon Veil. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je m'appelle Angèle. J'ai 57 ans. J'habite à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Nous sommes le 13 juillet 2009, veille de la fête nationale. Et mon réveil sonne à 4 heures. Oh, j'ai l'habitude. C'est comme ça une semaine sur deux. J'embauche à 6 heures jusqu'à 13h30. Je travaille dans une usine de chariots. Vous savez, les caddies de supermarché, les chariots d'aéroport. Eh bien moi, je suis chargé de visser dessus, debout, avec une visseuse, le monnayeur. Le truc où vous glissez les pièces. Ah, c'est physique, hein. Et d'ailleurs, il y a 4 mois, je me suis fait opérer d'une hernie discale. Mais ça va, hein. Je me suis remis au sport, au vélo. Et samedi dernier, j'ai fait 50 km. Entre nous, j'ai l'impression d'être plus jeune que beaucoup de femmes de mon âge. Et puis, il y a mon caractère. Je suis positive. Pas le genre à déprimer. Et je suis amoureuse. Et puis j'ai une fille, Cathy. Et deux petites filles, Célia et Mélanie. Tout va bien. Enfin, j'ai quand même un peu mal à la gorge. J'ai pris un cachet. Et puis hier, chez mon frère, je me suis senti fatigué. Et puis maintenant, quand j'y repense, il y a aussi cette histoire d'ananas. Je prends toujours de l'ananas à la cantine. Et la semaine dernière, je sais pas, j'ai trouvé ça acide. Une sensation bizarre, comme si ma langue se fendillait. Mais enfin, j'ai quand même prévu d'aller ce soir au bal des pompiers. Je me gare sur le parking de l'usine. Et là, j'ai comme des picotements au bout des doigts. Aïe, ça fait mal aux jointures. Bon, faut y aller. Je dis bonjour à tout le monde et je me mets à visser. Et là, un mal de tête. Une migraine qui me vrille le crâne. À 8h30, je vais voir mon chef. Je vais pas bien. Faut que je rentre, désolé. Rentre donc et repose-toi, ça va te passer. Ça va pas passer. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sais que c'est grave. Quand j'arrive à la maison, Ray, mon mari, est un peu surpris de me voir. Il me donne un cachet antidouleur. Je vais me coucher. Quand je me réveille, un supplice. C'est comme si ma tête était serrée dans un casque trop petit, qui rétrécit. C'est horrible. Ray ne trouve pas de médecin. Écoute, Angèle, j'appelle le SAMU. Ma tête est sur le point d'éclater. Le médecin m'examine. Vous ressentez une sorte d'engourdissement? Oui. Il fait la moue. On m'emmène aux urgences, mais... j'insiste pour descendre les 3 étages par l'escalier. J'arrive à l'hôpital de Strasbourg à 21h. On me fait des examens, des piqûres, une ponction lombaire. Et moi, j'entre dans un brouillard. Ça devient cotonneux, vaporeux. Comme si je me paralysais. Lentement. Pendant ce temps-là, autour de moi, on s'interroge, façon Dr House. Et si c'était une maladie de Lyme? Ou alors une méningite? Qu'est-ce que t'en penses? Ils ne savent pas ce que j'ai. À un moment, ils veulent que je rentre chez moi. Mon mari est un ancien de la police judiciaire, pas le genre à se laisser faire. Je vous dis que vous devez la garder. J'ai faim. Je demande à manger. Il y a des petits pois. Je prends une cuillère, tout part de travers. Je veux boire pareil. Je m'asphyxie. Je manque d'air. Monsieur, venez avec moi. Voilà, on va placer votre femme dans un coma thérapeutique. Pendant un jour ou deux.
Un coma?
Oui, c'est pour faciliter les soins. C'est pour la forcer à accepter l'aide du respirateur.
Ce coma, je ne suis pas prête d'en ressortir.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire qui est arrivée à Angèle Liébi, qui sera là tout à l'heure. Son expérience du coma, telle qu'elle la raconte dans son livre paru aux éditions Les Arènes, une larme m'a sauvé. En juillet 2009, Angèle a d'abord mal à la tête et elle sent comme un engourdissement. Transportée dans un hôpital de Strasbourg, il est décidé de la plonger dans un coma artificiel pour un ou deux jours. C'est le noir absolu. Mais j'entends le bruit des machines et des voix aussi. Tiens, voilà Ray, mon mari. Il vient de parler à une femme. Je lui parle, moi aussi. Il me répond pas. Ah, il vient de partir. Je suis perdu. J'ai l'impression d'être normal, mais ça ne marche pas. Je crois hurler, mais ce hurlement n'est qu'intérieur. Je crois bouger, mais je suis inerte. Soudain, une lueur m'éblouit.
Alors, voyons cette pupille.
Et après, je retombe dans le noir. Ce médecin ne peut pas ne pas avoir vu de la vie au fond de mon œil. Tiens, voilà ma voisine, Bernadette.
Angèle, même dans le coma, tu es belle.
Elle a dit coma. Je suis donc dans le coma. Je lui crie de toute mon âme. Je suis là, Bernadette. Je suis pas dans le coma puisque je t'entends. C'est une histoire de fou. Mais enfin, je suis dans le noir, mais je sens quand on me touche. Et j'entends. J'entends tout, j'entends les machines, j'entends les gens. J'entends les infirmières et les aides-soignantes.
Bon, t'as déjà fait ce travail?
Non, jamais.
Ok, alors tu mets 2/3 de bétadine verte et 1/3 de jaune.
Et là, elle m'enfonce quelque chose dans le nez. Et en même temps, quelque chose dans la bouche. Et je sens des torrents d'eau me dévaler dans les narines. Mais ça fait mal! Qu'est-ce qu'elles font? C'est une torture! J'apprendrai plus tard ce qu'elles font. Elles me nettoient les sinus.
Alors tu vois, ça il faudra le faire 3 fois par jour.
3 fois par jour? Mais c'est pas possible! Mon Dieu! Sortez-moi de là! Notre Père qui es aux cieux, que votre règne vienne! Je prie comme je n'ai jamais prié. Et elles reviennent, et je l'entends qui dit:
pardon, madame. Pardon.
Votre femme aime la musique?
Ah ouais, ouais.
Alors on peut lui en mettre dans sa chambre si vous voulez. Ça peut stimuler son cerveau. Ça peut pas lui faire de mal en tout cas.
Ok, pourquoi pas? Oh merci Ray. Merci, ça va me distraire.
Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Ah, Cabrel, j'adore. Sauf que ça s'arrête plus. Il n'y a plus jamais de silence, jamais. Et quand ça s'arrête, il y a toujours une infirmière pour dire. Oh, pourquoi on a éteint ? C'est sinistre ici.
Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait ? Je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo.
Et c'est reparti. Cette musique va me rendre folle. Tiens, revoilà les aides-soignantes. Oh mon mec, ce week-end, qu'est-ce qu'il a été pénible. Ils ont perdu au foot, figure-toi. Ça l'a mis dans ses états. Alors il se passe les nerfs sur moi, quoi. Et toi, tu le laisses faire. Elles me prennent pour un meuble. Eh ben les voilà encore, les torsionnaires de mes sinus. Oh ben tu sais quoi? On va plus lui faire qu'un soin par jour. Ça sert à rien de s'embêter, elle va bientôt clamser. C'est le grand chef qui l'a dit. Et là je me mets à crier, de ce cri que je suis la seule à entendre. Je vais bien! Je vais pas mourir maintenant! Un jour, deux hommes rentrent dans ma chambre.
Alors, est-ce que vous savez comment on peut s'assurer qu'une personne est vivante ou qu'elle est morte? Vous prenez son téton comme ça, hein? Et vous le pincez en tirant un coup violent comme ça, là.
Aïe! Mais ça fait mal!
Vous avez vu? Aucune réaction. Absolument aucune. Pas un frémissement de la peau, pas la moindre réaction sur le visage, rien du tout. C'est une bonne vieille recette, mais c'est toujours une bonne recette, hein?
Ils me croient morte. Ils vont me mettre dans un cercueil. Vivante. Heureusement, Ray le sait, ça, hein? J'ai demandé à être incinéré. Alors, ils vont me débrancher. Et s'ils me débranchent, bah, je vais mourir. Et je suis sûr que Ray et ma petite Cathy, ma fille, ne les laisseront pas faire. Il y a un truc qui m'inquiète. J'ai toujours dit à Ray que si je mourais, je voulais qu'on donne mes organes. Mais s'ils me croient morte, ils vont me prendre un rein, un cœur, sans anesthésie. Ils vont venir avec leur bistouri, là, ils vont me découper la peau. Alors maintenant, à chaque fois que quelqu'un approche, et que c'est pas quelqu'un que je connais, j'ai peur. Tiens, voilà Ray et notre fille Cathy. Je sens qu'ils sont pas loin, ils sont... dans son coin de la chambre ou alors dans le couloir. Ce que je vais vous raconter maintenant, je vais être honnête avec vous. Je ne l'ai pas entendu, ils étaient trop loin. Ray me l'a raconté après.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire qui est arrivée à Angèle Liebi, qui sera là tout à l'heure. Son expérience du coma, telle qu'elle la raconte dans son livre... paru aux éditions Les Arènes, une larme m'a sauvé. En juillet 2009, Angèle a d'abord très mal à la tête et elle sent comme un engourdissement. Transportée dans un hôpital de Strasbourg, il est décidé de la plonger dans un coma artificiel. C'était il y a 4 jours. Et là se déroule une scène que je n'entends pas. Ils sont trop loin, ils sont dans le couloir. Méré et ma fille Cathy me l'ont raconté après. Le médecin réanimateur, celui qui m'a fait le test du téton, leur dit «
Il faut songer à la débrancher. »
« Pardon ?»«
Je suis désolé. Il n'y a plus d'espoir, plus rien ne fonctionne, à part le cœur. Il faut la débrancher. »
Le réanimateur prend Ré à part
Vous savez, vous devriez faire les démarches maintenant. C'est plus facile avant qu'après.
Les démarches ? Vous voulez dire les obsèques ?
Oui, c'est ça.
M'a raconté que ils sont rentrés à pied à la maison. Ils en ont oublié qu'ils étaient venus à l'hôpital en voiture. Et le lendemain, il y est allé. Il est allé aux pompes funèbres.
Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?
Ils lui ont conseillé un cercueil adapté à l'incinération. Un cercueil de chêne clair, capitonné de soie blanche. Et il a choisi la couleur des roses.
Ils en ont parlé tout le week-end. Ma fille a appelé la marraine de sa fille, qui est médecin, et finalement, Réa dit « C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas un médecin tout seul comme ça, même s'il est réanimateur, hein, qui peut prendre une décision pareille. On ne débranche pas quelqu'un aussi vite. »
Et le lundi, il est allé voir le médecin.
« Docteur, nous n'acceptons pas que vous débranchiez Angèle. Jamais. Vous entendez ? Jamais. Et vous, je veux même plus que vous la touchiez. »
Il paraît qu'il n'a rien dit, qu'il n'a même pas répondu, comme s'il était d'accord au fond. Je suis sauvé, puisque mes amours ont refusé de m'abandonner.
Je veux vous dire quelque chose. Je n'ai pas aperçu le fameux tunnel. Vous savez, le tunnel dont parlent les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ce tunnel attirant, irrésistible. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais eu envie de basculer de l'autre côté. Tiens, voilà mon frère Paul. Je crois que c'est la première fois qu'il vient me voir.
Coucou Angèle, ma petite sœur. Tu partiras pas sans nous dire au revoir, hein ? Tu vas pas nous faire ça ?
Il a réussi à me faire pleurer. Et là j'entends...
Venez vite ! Il y a un problème !
Les machines s'affolent. C'est formidable. Je peux hurler par machine interposée. Il parle de tachycardie, mais c'est pas ça. Mon cœur s'affole parce que je souffre. Mais ils comprennent pas. Ils m'entendent pas.
Deux femmes viennent d'entrer dans ma chambre. Et j'ai droit à leurs petites histoires.
Tu connais la dernière de ma fille Julie ?
Non, qu'est-ce qu'elle a fait encore ?
Figure-toi qu'elle a passé deux jours chez sa copine Clémence, à la campagne. Soi-disant avec les parents. Et hier, je récupère son sac avec ses fringues sales. Et qu'est-ce que je trouve dans sa poche ? Des capotes.
Oula ! Elle a quel âge déjà ?
16 ans. C'est un peu jeune, non ? Ça a chauffé, hein, je me permets de te le dire. Son père était hors de lui.
Je suis un peu jeune pour être mamie, non ?
Franchement.
Et elle rigole.
Vient de dire que c'est notre anniversaire de mariage.
Mince alors, je suis à l'hôpital depuis aussi longtemps. Comme j'aimerais l'embrasser. Je me mets à pleurer dans ma prison intérieure. Et là, ma fille se penche et elle me parle tout doucement.
T'en fais pas, ma petite maman. Prends soin de papa, tout va bien. Je vais te dire un secret, maman. Et cet enfant, il doit absolument connaître sa mamie. J'ai l'impression de suffoquer. Et là, j'entends Cathy. Papa ? Papa, regarde !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Regarde, maman. Elle pleure. La larme, là. C'est une larme qui coule, ça, non ?
T'as raison. Je vais chercher quelqu'un.
Maman ! Maman !
Et là, du monde entre dans la pièce. Et Cathy leur dit.
Maman a réagi. Elle a pleuré. Il y a une larme qui vient de couler sur sa joue.
Je crois pas, non. C'est le gel.
Pardon ?
Je dis que c'est le gel. Vous savez, le gel sur les paupières. Il a dû couler.
Mais je sais qu'on lui met du gel. Mais je vous jure que c'était une larme.
Je les entends partir.
Maman. Tu m'entends, maman ? Est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends, dis-le-moi. Pleure. Bouge quelque chose. Elle a bougé un doigt.
T'es sûr?
C'était léger, mais je suis sûr qu'elle a bougé un doigt.
C'est comme si la prison de mon corps s'était entrouverte. Enfin, je reviens vers mes amours. Je suis de retour à la vie. C'est le plus beau de tous mes anniversaires de mariage. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette larme si précieuse? Oh, j'aurais bien voulu la garder dans une boîte, comme un bijou. Enfin, mes proches savent que je suis là. Enfin, les médecins vont comprendre.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire qui est arrivée à Angèle Liébi, qui sera là dans un instant. Son expérience du coma qu'elle raconte dans un livre aux éditions Les Arènes, « Une larme m'a sauvée ». En juillet 2009, Angèle a d'abord très mal à la tête et elle sent comme un engourdissement. Elle est plongée dans un coma artificiel. Et pendant des jours et des jours, elle entend tout ce qui se passe autour d'elle, mais n'arrive pas à faire savoir qu'elle est consciente. Mais le 12e jour, alors que sa fille est en train de lui parler, une larme coule sur son visage.
Et là, ça y est, je suis sorti de la nuit. Je vois la lumière. Même si je vois mal, je vois double, mais je vois. Quel bonheur de revoir Ray et Cathy.
En revanche, j'entends mal maintenant. Comme si on m'avait mis deux cocottes minutes de chaque côté du crâne. Ça fait pshhh. Les médecins sont au pied du lit, ils sont en conciliabule. Je n'entends rien de ce qu'ils disent. Ça aussi, je l'ai appris après. Ils ont trouvé ce que j'ai. Le syndrome de Bickerstaff. Quand ils ont dit à Ray et Catherine ce que c'était, ils ont sauté sur Internet. Maladie dysimmunitaire du système nerveux central. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Maintenant que je peux bouger un doigt et cligner d'un œil, Ray, Cathy et moi, on a mis au point un nouveau langage. Ray récite l'alphabet. A, B, C, D. Ou attention, faut pas que je la loupe. Je lève l'auriculaire gauche quand c'est la bonne lettre. G, H, I, J, K, L. À L, je lève le doigt. Et puis après A, I et A, V. Livre ? C'est ça, Angèle ? Tu veux dire livre ? Et le soir, dans son cahier, Ray écrit. Angèle veut écrire un livre sur sa maladie. Je sais, de là où je suis, ça paraît une idée folle. Déplacée, sans doute. Mais c'est comme ça, ça ne se commande pas. C'est trop fort ce qui m'arrive. Cette histoire doit être écrite quelque part. Et c'est aussi avec mon doigt, par Ray, que je fais passer des messages. Il faut éteindre la télé.
Elle m'a dit qu'il fallait éteindre la télé. Mais comment vous savez ça, vous? Bah parce qu'elle me l'a dit. Mais votre femme ne parle pas. Ça ne l'empêche pas de communiquer. Dans son cahier, Ray écrit. 25 juillet, sortie du coma. 27 juillet, tourne la tête à droite et à gauche. 3 août, bouge les doigts. 6 août, communique par oui ou par non. 14 août, assise dans son fauteuil. Oh, ça, c'est une sacrée étape. On mobilise 3 aides-soignants et une machine, un soulève-malade. Je ne suis qu'un gros tas d'os, mais je ne suis pas fâché de quitter la position couchée. J'ai compté. 13 fils, sondes et tubes sont encore reliés à mon corps, dont un qui me rentre directement dans la gorge. Une trachéotomie. Le 2 septembre, un mois et demi après mon arrivée, on décide de débrancher le respirateur artificiel. Grosse appréhension. Vous y êtes, Madame Liebi? Attention. Je vous enlève le tuyau du respirateur et hop! Bah ça y est, à vous de jouer maintenant. Oulala! Surtout ne pas oublier de respirer. J'aspire à peu près bien, mais je n'expire pas suffisamment. Au bout d'une heure, on me le remet, mais un jour... On me l'enlève toute la nuit et je me réveille, encore vivante. Et à partir de là, je peux faire un autre progrès fondamental. Parler. Essayez. Bonjour.
Bonjour.
Un pas de plus. Et après, je réapprends à manger, à lire, à écrire, à faire pipi. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Voilà, Angèle. J'ai arrêté mon histoire là, mais la vôtre, évidemment, a continué après. Vous êtes restée combien de temps dans ce service de réanimation?
6 mois.
Oui.
Et 6 mois en réadaptation. Et encore autant en hôpital de jour.
Avec une rechute, hein, je crois.
Oui, oui, oui. Il a fallu me remettre la trachéo. C'était difficile,
ouais.
Très très difficile. Mais c'était un long chemin, c'était pas fini. Il fallait pratiquement 4 années pour être à peu près comme maintenant.
4 années.
Oui. Et encore aujourd'hui, je fais du sport, je bouge pour que les raideurs ne reviennent pas.
C'est le sport en fait qui va vous sauver. Hein. Vous avez une passion notamment pour la montagne.
Aussi, mais aussi quotidiennement un peu de sport parce que. Il faut remettre la machine en route. Et puis, comme j'avais plus que le squelette sans muscles, donc il n'y a que moi qui pouvais faire en sorte que ça avance.
Vous remusclez.
Oui.
Qu'est-ce qui reste de tout ça, aujourd'hui, 10 ans après? Enfin, cet été, ça fera exactement 10 ans.
Oui. Ben, ce qui reste, comme des gars, je ne sais plus chanter, je ne sais plus courir.
Ah
il y a
bon
quand même des petites choses.
Qui ne sont pas revenues.
Non, mais c'est minime par rapport à ce qu'il y avait. Et je suis bien contente de m'en être sortie telle que.
Mais du coma, est-ce que vous y pensez, au coma?
Non, j'essaye de pas. Je mets tout ça de côté et non.
Toujours ce côté positif, comme
oui, sauf au mois de novembre dernier, j'ai été opérée des calculs et là, en rentrant dans le bloc opératoire, ça m'est revenu.
Oui.
Je me suis mise à pleurer. Enfin, c'était difficile.
Ça revient la nuit parfois?
Non, non.
Ni
non,
en rêve, ni en
Dieu,
cauchemar.
Non, jamais, jamais. Ça passe, heureusement.
Un des premiers messages que vous faites passer à Ray est assez étonnant. Vous lui dites, je veux faire un livre.
Oui, il ne comprenait pas d'abord. Il me disait, non, on a fait des recherches. Ça n'existe pas, un livre sur le syndrome de Bickerstaff. Ça n'existe pas.
Mais sur le coma.
Mais oui, mais moi, je ne pouvais pas. Enfin, c'est après qu'il a compris que c'était moi qui voulais faire un livre.
Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment.
Parce qu'il
de
se
là
passait
êtes...
tellement de choses qui, pour moi, étaient presque invivables. temps. Et il y avait beaucoup de douleurs qu'on, je ne peux même pas vous l'expliquer parce qu'il faut l'avoir vécu. Vous voyez ?
Et vous aviez le sentiment d'avoir vécu un truc pas ordinaire.
Oui, voilà. Oui.
Alors, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause et puis de reprendre quelques passages de ce récit absolument étonnant dans un instant. Je rappelle le titre de ce livre qui est sorti il y a un bout de temps déjà, mais qu'on trouve toujours sur Internet, puisque c'est là que nous nous le sommes procuré. « Une larme m'a sauvé » d'Angèle Liébi, aux éditions Les Arènes.
Vous écoutez Christophe Ondelatte sur Europe 1 jusqu'à 15h. Christophe, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire d'une femme dont la vie a bien failli s'arrêter et elle est à vos côtés cet après-midi.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'Angèle Liébi, parue aux éditions Les Arènes. « Une larme m'a sauvé », l'histoire d'une femme qui tombe dans le coma, une femme que 4 jours plus tard on veut débrancher et qui pourtant, dans le coma, entend tout ce qui se passe autour d'elle sans pour autant réussir à communiquer. Alors, si on reprend l'histoire au début, Angèle, il y a cette difficulté de diagnostic, en fait, cette maladie qui vous frappe à ce moment-là, ce syndrome de Bickerstaff, c'est une maladie très rare, donc oui. Ça explique que les médecins mettent un temps fou à poser le diagnostic.
Bien sûr. Il y avait, je crois que j'étais le 15e cas dans le monde qui s'en est sorti, donc ça je comprends que vraiment c'était difficile à voir.
Tous les autres sont morts.
Oui. Enfin, non, 15
s'en sont sortis.
S'en sont sortis donc,
C'est une maladie que vous avez toujours, aujourd'hui ?
Non.
Elle peut revenir ?
Ah, ben ça, j'espère que non. Hein.
Mais en théorie...
Personne n'a dit que ce n'est pas connu.
Non.
C'est pas connu.
Il n'y a pas de risque de rechute. L'ananas acide,
oui.
C'est un symptôme ou...
Je ne sais pas, c'est la langue qui était rugueuse.
Oui.
Là, j'en remange de nouveau, ça ne me fait plus rien.
Bon.
Donc, oui, c'est... peut-être que c'était quelque part un signe.
Ah, il y a quand même ce passage incroyable où on veut vous renvoyer chez vous. C'est-à-dire, vous arrivez à l'hôpital, vous allez entrer dans le coma quelques heures plus tard, mais on veut vous renvoyer chez vous.
Oui, ben oui. Mais au départ, moi, je ne pensais même pas rester à l'hôpital. J'étais presque gênée d'y aller. Je me suis dit, pour un mal de tête, je ne vais pas les déranger. Ils vont me donner un cachet et je vais rentrer. Vous voyez, je ne pensais jamais rester 6 mois.
C'est marrant cette idée de ne pas déranger.
Ben oui, parce que pour moi, c'est les accidentés, les gens qui ont vraiment quelque chose. Pour moi, c'était comme mal de tête. Tellement terrible que c'était presque insupportable.
Il a eu raison, Ray, de se battre pour rester, parce qu'au fond, vous vous paralysez dans les heures qui suivent.
Oui.
Si vous étiez
J'aurais pu partir, peut-être même paisiblement, mais je ne me rendais compte de rien. J'entendais, elle parle toujours aussi doucement, votre épouse parle toujours. Ou alors... elle n'a plus de réflexes, entend des choses, mais sans. J'étais sereine, je paniquais pas, je n'avais pas peur de l'hôpital. J'étais persuadée qu'on allait me trouver quelque chose et me sortir de là tout de suite.
Alors donc, on vous plonge dans un coma artificiel. L'idée, c'est de vous en sortir assez vite, c'est pour vous détendre, vous calmer et vous permettre la ventilation.
Non, parce que ça s'endormait dans la gorge.
Voilà.
Et donc, ils ont vu que, comme je faisais des fausses routes en mangeant, que là, ça marchait plus, je respirais plus correctement.
Et ils n'arrivent pas à vous sortir de ce coma artificiel, en vérité. Vous êtes tombé dans le vrai coma.
Oui.
Un coma profond. Toutes ces scènes que vous entendez, les infirmières, la voisine Bernadette, qui vous dit même dans le coma, t'es belle. Et c'est comme ça que vous...
Comme ça, je sais que je suis dans le coma.
Jusque-là
Jusque-là, j'avais très mal. J'avais l'impression que mes côtes étaient écrasées. Je me demandais s'il y a eu un séisme. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais que je m'étais rendue à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne comprenais rien.
C'est important, ça, parce qu'évidemment, vous le décrivez assez précisément, mais nous, on est un peu surpris à l'autre bout. Dans le coma, vous vous souvenez très bien que vous êtes arrivée à l'hôpital.
Oui.
Vous souvenez de tout, en fait.
Oui.
Et vous pensez avec la même dextérité qu'avant.
Oui, bien sûr. Je me souviens juste d'être entrée dans le bloc opératoire. Là, j'ai vu mon mari et puis il m'a dit « t'inquiète pas, c'est rien ». Moi, j'ai encore dit « viens avec ». Et puis, les portes sont fermées et puis plus rien. Voilà.
Mais ces scènes que vous avez entendues, alors il y a des trucs marrants quand vous entendez les infirmières parler de la fille chez qui on a retrouvé une capote dans la poche.
Je me suis dit, je n'existe pas.
Oui.
Et il le raconte devant moi, comme devant un meuble ou comme dans un
endroit. Mais vous en avez parlé avec elle après, pour leur dire, mais tu dis donc.
Non, pas. Elles étaient tellement étonnées de me voir déjà.
Vivante.
Il y en a qui me disaient, c'est elle, la Madame Libby qui était chez nous.
Le fantôme.
Oui. J'avais l'impression que je leur inspirais de la... Enfin, ils avaient presque peur.
Mais ces femmes-là qui travaillent dans un service de réanimation, elles ne savaient pas qu'il arrive assez couramment que les gens qui sont dans le coma entendent.
Oui, enfin, il paraît que... Oui,
ça arrive.
Ça arrive, ça arrive.
Pas toujours.
Pas toujours. Il y en a qui n'entendent pas, mais il y en a qui entendent.
Et donc, elles ne faisaient pas attention.
Non, non. Moi, j'étais... Voilà. Moi, je réagissais plus à rien, donc... Ils pensaient que moi, c'était fini pour moi.
Vous avez cherché à vérifier un peu ces scènes, par exemple, avec votre voisine, la Bernadette. Vous lui avez dit, mais je t'ai entendu dire. Cette phrase, elle a confirmé qu'elle l'avait dite.
Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr.
C'est super troublant, ça.
Oui, c'est troublant. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et elle n'y croyait plus non plus, mais elle m'a dit ça quand même.
Alors, le test du téton, bon, pour moi, ce n'est pas une découverte. Je l'ai vu pratiquer au SAMU, chez les pompiers, quand quelqu'un... tombe dans les paumes, la première chose qu'on fait, c'est lui pincer le téton, puis il y a aussi un endroit là, au bout de du doigt, dans l'angle, où on fait avec une pointe de stylo, en stimule.
Mal. Ça faisait mal, comme si on vous arrache un bras, comme ça,
comment se fait-il qu'il pratique donc ce test qui est vraiment capital pour savoir si quelqu'un est dans le
coma ? Oui, mais ça prouvait que pour eux, je n'existais plus.
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, vous le savez maintenant, vous ? Pourquoi votre téton n'a pas réagi ? Pourquoi votre visage ne s'est pas crispé quand on a...
Peut-être qu'il était paralysé, je pense. Moi, je pense ça. Mais...
Vous étiez paralysé, en fait, du système nerveux central et périphérique.
Oui.
Ce qui est une caractéristique de cette maladie.
Et c'est pour ça, même les yeux, je ne pouvais plus les ouvrir.
Ouais. Vous avez parlé avec le médecin de ce test du téton raté ?
Oui, voilà, ils ont mis... C'est une personne qui ne devait pas faire ça. Voilà.
Ah d'accord. Il avait tort.
Il avait tort.
De conclure ça.
Oui.
Que vous étiez...
Ça, je n'ai pas aimé parce que j'aurais préféré qu'on me dise, voilà, on s'est trompé, on ne savait pas. Mais de dire, oubliez tout, voilà, c'est bon, vous êtes debout.
Revenons pas sur le passé.
Oui.
Votre mari s'est sacrément mis en colère, manifestement, quand il a été question de vous débrancher.
Oui, heureusement.
C'est un ancien flic.
Oui, voilà. Hein
à ce moment-là, il est à la retraite de la police, il travaille ailleurs.
Oui, ça lui semblait quand même
mais il a du caractère,
invraisemblable.
Quoi.
Au bout de 4 jours déjà, il voulait débrancher.
Et lui, heureusement qu'il ne les a pas laissés faire.
Oui, heureusement. Sinon, je ne serais plus là.
Il vous aurait tué.
Bah oui. C'était ma chance quand même, malgré tout.
Il y a une morale dans votre histoire, c'est que la musique, c'est très bien pour les gens qui sont dans le coma. Mais
faut pas répétitif et sans arrêt, nuit et jour.
Il fallait arrêter, quoi.
N'importe qui, une femme de ménage, n'importe qui rentrait rallumé, même si mon mari l'éteignait en partant, n'importe qui rallumé.
Donc on le dit...
Et alors ça me faisait de la tachycardie, et les douleurs me faisaient de la tachycardie, et eux, ils croyaient que c'était la fin. C'était le reste, quoi, le cœur, parce qu'en fait, tout avait lâché, sauf le cœur.
Donc la morale de cette histoire, on le dit aux infirmières de réanimation, mettez un peu de musique dans les salles
musiques... On entend de la forêt, les feuilles, les choses de la nature. Ça, on peut mettre, laisser. Ça, j'aurais aimé.
Mais Francis Cabrel toute la journée ?
Ah non, pas sans arrêt. Et pas que Francis Cabrel.
À tout de suite.
Vous écoutez Christophe Ondelat sur Europe 1, comme tous les jours, jusqu'à 15h, Ondelat raconte. Christophe, aujourd'hui, vous nous avez émus avec l'histoire de cette femme qui a frôlé la mort. Et cette femme, elle est à vos côtés cet après-midi.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'Angèle Liébi qui est là en face de moi, tirée de son livre paru aux éditions Les Arènes, « Une larme m'a sauvée ». L'histoire donc d'une femme qui tombe dans le coma et une femme que 4 jours plus tard d'ailleurs on veut débrancher. Et qui pourtant, dans le coma, depuis le premier jour, entend tout ce qui se passe autour d'elle sans pour autant réussir à communiquer. Alors vous le dites à un moment, vous dites que les choses soient claires entre nous. Oui, j'étais dans le coma, oui, j'entendais tout, mais à aucun moment je n'ai vu le fameux tunnel. Donc vous en aviez entendu parler avant, je suppose, de ce tunnel. J'ai raconté ici des histoires de mort imminente où des gens disent « oui, j'ai vu ce tunnel, je me sentais aspiré ». Au fond du tunnel, c'est attiré par la mort, en fait. Vous n'avez pas eu cet appel de la mort ?
Non, jamais, jamais. Jamais je me suis dit que j'allais mourir. Tout le temps, je gardais espoir, de jour en jour, d'heure en heure. Je me disais, ils vont trouver, ils vont chercher, ma famille va voir que je suis vivante. Je ne pouvais pas comprendre que ce soit la fin, puisque pour moi, j'avais aucune maladie, j'avais rien, j'étais venue à l'hôpital debout.
Pour un mal de tête.
Voilà. et je voulais ressortir comme ça et je ne comprenais pas pourquoi ça allait de plus en plus mal pour moi.
Je repose la question, je l'ai déjà posée tout à l'heure, mais évidemment pour nous c'est un truc surprenant. Vous pensez dans le coma comme vous pensez aujourd'hui.
Oui.
C'est aussi rapide, aussi vif.
Oui.
Le raisonnement est identique.
Oui, je pensais même à ma mère qui avait 94 ans quand elle est partie et ma tante, donc sa sœur qui avait presque 100 ans. Donc je disais toujours, nous on a des bons gènes, on peut aller, voilà, avec de la chance bien sûr, très loin. Et là, à 57 ans, je me suis dit, c'est incroyable, c'est pas vrai, c'est pas pour moi, c'est pas encore.
Il y a la scène de la terreur du don d'organes. Ça, c'est un moment, je trouve, terrible, parce qu'il l'aurait fait, bien entendu. Il aurait respecté votre dernière volonté de donner vos organes.
Oui. Puisque là, maintenant, ils le font, même sans demander. Si vous ne dites rien, c'est fait.
Oui.
Moi, je me demande, oui.
Bon, et vous y pensez vraiment ?
Oui, à ce moment-là, j'y pensais beaucoup, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Il faut que ça s'arrête.
On va me découper vivante.
Oui, j'y pensais.
Et sans anesthésie.
Oui, puisque pour eux, je ne tentais plus rien. Donc, forcément. Bon, à ce moment-là, ça me rassurait quand même, parce que je me suis dit, ils vont quand même débrancher à ce moment-là. Ce sera vraiment la fin de mon cœur aussi.
Je vais arrêter de respirer.
Oui. Et donc ça va être.
Je vais mourir.
Oui.
On me découpera morte.
Oui.
La scène des pompes funèbres est absolument, évidemment, terrifiante. Oui. On est presque dans un film, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé
aux
pompes funèbres.
Et ce n'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui l'a dit.
Comment vous le saviez ?
Je le ressentais, qu'ils lui ont dit de faire ça. C'est moi qui a dit, vous êtes allé aux pompes funèbres, vous vouliez m'enterrer.
Il n'osait pas vous le dire, évidemment, lui.
Non, il ne me l'aurait jamais dit.
Peut-être aujourd'hui.
Alors j'ai dit, je veux voir cette feuille, je veux la voir. Et il l'avait caché dans la voiture, dans le coffre. Et là, il me l'a montré. Bon, j'ai lu que le début.
Pour lire le bon de commande du cercueil en chêne clair.
Oui, tout l'ensemble déjà. Mais j'ai lu que le début, jusqu'au chêne clair. Donc ça m'a suffi. J'ai dit, on peut le déchirer, c'est bon.
Quelle scène terrible.
Ouais,
ça marque quand même.
Oui, ça marque. Ouais. Lui, chaque fois que je passe devant une pompe funèbre, je dis, mon Dieu.
Je suis déjà passé là, d'une certaine manière.
Oui.
Vous n'êtes pas nombreuses sur Terre à pouvoir dire « je suis déjà passé par les pompes funèbres ».
Oui. Peut-être la seule.
Et
qui sait ce qui était prévu pour moi en plus.
Et j'y suis pas allé. Il vous en parle, lui, de temps en temps, de cette scène ?
Non, on n'a plus jamais parlé. Non.
Avec lui, vous ne reparlez plus de tout cet épisode ?
Non. Il avait même du mal à lire le livre. Bon, il savait ce qu'il y avait dedans, mais le lire une fois pour toutes... Il a mis peut-être 2 ans à terminer le livre.
Ah oui.
Et chaque fois, il a dû le mettre de côté. Et puis, voilà. Il est trop ému.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous dites là que vous avez eu un pressentiment. Vous avez aussi un pressentiment dès le début qui est intéressant. C'est-à-dire que vous dites, je sais que c'est sérieux. Je sais que c'est grave.
Oui. Oui, parce que j'avais jamais... Au début, j'avais, il y a très très longtemps, une fois cassé le petit doigt. Donc, je me suis dit, est-ce que je ressens maintenant des douleurs dans les mains par rapport au temps, comme on dit, des rhumatismes, des choses comme ça. Mais après, ça se crispait vraiment dans toute la main et ensuite dans l'autre. Et je me suis dit, ça, je n'ai jamais vu. C'est quand même bizarre. Ça m'inquiétait.
Il y a une scène qui est aussi très étonnante, c'est donc la scène de la larme qui donne le titre à votre livre.
Oui.
Cette larme qui coule et qui est en fait la manifestation du fait que vous êtes en train de sortir du commun. Précédemment, vous avez déjà essayé de pleurer, puis ça n'est pas sorti, ce jour-là, ça sort.
Oui.
Hein ?
Mais j'ai déjà entendu, non, ils me mettent du gel dans les yeux parce que la paupière ne fait plus son effet.
Oui.
Et que ce n'est pas possible. J'avais déjà, dans les moments des sinus, où vous me lavez les sinus, j'avais déjà pleuré. Je sentais que ça me coulait dans le dos, tellement je pleurais. Et chaque fois, il disait non, c'est pas possible, c'est le gel.
Alors, à ce moment-là, vous vous dites un truc étonnant. Vous dites, ah ben, on doit être le 25 si c'est mon anniversaire de mariage.
Oui. Mais je savais que j'étais rentrée le 13.
C'est ça qui est stupéfiant. C'est-à-dire que vous êtes à ce point consciente que vous savez que vous êtes rentrée le 13, que votre anniversaire de mariage.
Je me suis dit.
Et le 25, et donc ça fait 12 jours que vous êtes là, quoi.
Oui,
vous savez faire une soustraction.
Oui. Tout de suite, je dis, oh, déjà, c'est longtemps que je suis là.
Merci beaucoup, Angèle Liébi.
C'est moi qui
d'être revenu 10 ans après sur cet événement incroyable qui, j'en suis sûr, va passionner nos auditeurs qui, s'ils le veulent,
peuvent poursuivre en lisant votre livre qu'ils trouveront sur Internet. Une larme m'a sauvé aux éditions Les Arènes, signée Angèle Liébi. On a rendez-vous demain à 2h de l'après-midi pour une autre histoire. Olivier Delacroix sur Europe 1. Salut à tous.
À demain, Christophe Ondelat, à 14h sur Europe 1. Alors demain, c'est une affaire plus classique que vous allez nous raconter. L'affaire Seznec, une affaire historique. Hein, le 16 juillet 1923 à Morlaix, en Bretagne, Guillaume Seznec est arrêté. Il est soupçonné de l'assassinat de son ami et associé, le conseiller général Pierre Quémeneur. Il l'aurait tué au cours d'un voyage en voiture à Paris pour mettre la main sur son manoir. La suite de cette affaire historique, c'est demain, bien sûr, à 14h, avec Christophe Ondelat sur Europe 1.